Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Stéphanie Borg, en duo avec Julien Verchère pour cette émission coproduite par On Express et Tout Lyon, votre média lyonnais. Patronne d'industrie, elle est le porte-voix des chefs d'entreprise et de multiples causes au service de l'économie. Autodidacte, elle occupe désormais la présidence de WorldSkid France à la manœuvre pour organiser l'événement planétaire, sorte de JO des métiers, qui auront lieu en septembre 2024 à Lyon. Sans plus attendre, rejoignons Florence Poivet sur le quai du Rhône Express à la Part-Dieu qui nous attend, tout sourire, pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 10, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Florence Poivet, bonjour.
Bonjour.
Le Rhône Express démarre de la Part-Dieu. Nous allons passer une petite demi-heure ensemble pour évoquer votre parcours très riche. Et pourtant, vous avez une très courte bio sur LinkedIn dans laquelle on peut lire cette unique phrase: un parcours d'autodidacte passionné par l'aventure humaine de l'entreprise. Est-ce que cette phrase suffit à vous résumer, Florence Poivet?
Oui, ouais, je crois que oui. C'est ce qui m'anime, sans aucun doute. L'aventure humaine est celle qui m'anime le plus. Probablement que c'est né dans mon enfance, hein, parce que l'enfance, ce sont les pierres de notre personnage, hein, et ça a été une aventure. Mon enfance a été une aventure que j'ai vécue de façon extrêmement lumineuse, mais avec une aventure difficile pour maman. Maman est devenue veuve toute jeune. Nous étions, mon frère et moi, j'avais 2 ans, lui avait 4 ans de plus que moi, dans un pays, la Suisse, où les femmes n'étaient absolument pas protégées, pas accompagnées. Et maman a dû trimer. J'ai connu ma mère en train de trimer, et ça lui suffisait pas, parce que elle pensait qu'il fallait que sa condition, elle essaye de l'améliorer pour les générations suivantes. Donc elle a été la première femme élue en politique dans la région de Lausanne, et puis elle pensait qu'il fallait donner de l'espérance et offrir de l'espérance, donc elle faisait le catéchisme, et puis. Donc oui, j'ai été très inspirée par une mère très engagée et très tendre à la vie de chacun et de chacune.
Et donc votre parcours, il débute en Suisse et ensuite il se prolonge de l'autre côté de la frontière, ici en France. C'est au moment des études supérieures que vous êtes arrivée dans...
Non, oh là là, il a été beaucoup plus...
Ah, il a été beaucoup plus complexe.
Ah oui, vous avez parlé, j'ai entendu tout à l'heure parler de planétaire, ah, je m'y suis un peu lancée. Donc vous savez, en Suisse, les montagnes sont hautes, donc on est très vite très curieux de ce qui se passe derrière. D'autre part, l'école, c'était pas mon truc. J'avais de bonnes notes, mais c'était pas mon truc. J'avais envie de faire, j'avais envie un peu de... Je suis pas sûre de changer le monde, mais de transformer, peut-être inspirée par maman qui voulait construire un futur un peu différent, un peu meilleur. Donc à 18 ans, j'ai quitté la Suisse et je suis allée dans le monde. J'ai vécu un peu en Australie, j'ai vécu un peu en Arabie Saoudite, j'ai vécu un peu aux États-Unis, au gré, sans plan, sans véritable... C'est une chance extraordinaire. Moi, je dois dire que quand je fais un flashback sur ma vie, ce que je trouve la chance extraordinaire que j'ai eue, c'est que, au fond, je n'avais pas de plan. Aucun plan. Je n'avais pas de rêve. Alors, ça peut paraître décevant de dire ça, mais au fond, je n'avais pas de rêve. Mais j'avais une forme de grâce de prendre les événements comme ils venaient. Et du coup, c'est comme ça que je suis passée d'un pays à un autre, avec des petits boulots, évidemment. J'étais jeune, je n'avais pas de formation. Et puis, au bout d'un certain temps... Surtout quand on a eu une mère inspirante, un pays natal extrêmement enracinant, la Suisse, on a besoin d'y revenir. Donc c'est là où je me suis dit, tiens, ce serait peut-être pas mal que je revienne un petit peu en France, mais en tout cas me ressourcer et me réenraciner. Et j'avais pas d'amis, la Suisse était mon pays d'enfance. Et je me suis dit, tiens, et si, à travers les partis politiques, je trouvais mon chemin d'intégration en France. Et j'ai fait à ce moment-là, c'était en 78, je crois, ou 79, j'ai fait toutes les conventions politiques, sauf j'ai éliminé les deux extrêmes, en me disant là non, là c'est quand même un petit peu trop. Donc j'avais éliminé les deux extrêmes. Et voilà, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée en Haute-Loire, dans un amour politique. Et c'est là où j'ai créé ma famille, et j'ai eu la chance extraordinaire de démarrer une aventure que je n'avais pas imaginée, que je n'avais pas planifiée, qui est celle d'entrepreneur. Et une industrie, la plasturgie, dans le Massif central, autodidacte, vous l'avez dit. J'ai pleuré, j'ai tremblé, j'ai eu peur les premiers mois, quelque chose de dingue, quoi, vraiment.
Vous avez pensé repartir, même à un moment donné ?
C'était compliqué parce que quand on prend la responsabilité même d'une petite équipe, mais qui est enracinée dans son terroir, c'est compliqué de déserter. On a une forme de responsabilité aussi territoriale d'une certaine façon, jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'au fond, même une entreprise industrielle, à mes yeux, c'était d'abord une formidable aventure humaine. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai été 30 ans chef d'entreprise, 30 ans de bonheur, mais vraiment de plein bonheur. J'ai eu mes trois enfants, c'est la période où j'ai beaucoup reçu de l'expérience, de la vie, du monde, des enfants. Je me suis dit, il y a un moment où c'est normal que je partage. Donc j'ai rejoint le collectif en présidant la Fédération de la plasturgie. En y apportant ce regard un peu nouveau, un peu décalé de l'homme au cœur de l'aventure industrielle, ce qui a permis d'avoir un dialogue social assez, en tout cas, ressourcé, on va dire ça comme ça, dans la profession. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Gattaz au moment où il avait envie d'être président du MEDEF. Et nous avons fait un bout de chemin ensemble. Et avec l'immense étonnement et enthousiasme d'avoir pu présider la commission éducation-formation. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait à la clé les négociations nationales, donc avec les partenaires sociaux, sur les sujets de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À nouveau, moi, négociation dans mon entreprise, je n'avais pas de syndicat. Bon, c'était même très très compliqué au moment des 35 heures. Il a presque fallu désigner quelqu'un, faute de l'avoir. Mais là encore, j'ai été extrêmement, presque émue humainement, de découvrir que c'était, là aussi, c'était d'abord une aventure humaine. Et hier soir, le hasard de la vie fait qu'hier soir, je retrouvais des compagnons de route de ce moment-là. Et j'étais touchée d'entendre l'un d'entre eux dire « Mais c'est d'abord une aventure humaine, ces négociations. C'est formidable. C'est une chance extraordinaire de l'y vivre. » Donc voilà, ce temps du partage. Et puis arrive un troisième temps, celui du don. On a reçu, on a partagé. Moi, j'ai transmis l'entreprise à un industriel qui avait de beaux projets pour elle, un industriel auvergnat qui avait de beaux projets pour elle. Et arrive le temps du don, et c'est celui dans lequel je suis depuis 3 ans maintenant. Et là encore, c'est un temps formidablement enthousiasmant.
Alors, fort de toute cette expérience, est-ce que vous diriez qu'il y a maintenant une méthode Florence Poivet dans toutes ces négociations que vous avez menées, votre présence dans les organisations patronales? Quelle est votre patte, votre style et alors, comment vous avancez dans ces moments-là ?
Je pense pas qu'il y a une méthode, pas du tout. Je pense surtout qu'il y a une grande chance. Et pardon pour ceux qui m'écoutent et qui sont profs, qui animent des établissements universitaires ou de grandes écoles, mais j'ai la chance de ne pas avoir été formatée du tout. Donc la vie et l'intuition, j'aime les êtres. J'ai confiance, j'ai très confiance dans les êtres. Et puis, il ne faut pas oublier que je suis née en Suisse. Et dans ce pays, on trouve, à quelque niveau que ce soit les politiques ou que ce soit le monde syndical, on trouve les chemins pour avancer ensemble, pour construire ensemble. C'est un pays du consensus. Et pour trouver ce consensus, forcément, on doit écouter. Forcément, on doit embarquer une partie de l'autre Parce que le consensus, il est au service d'une ambition qui est la même. Les chemins sont extrêmement différents, mais l'ambition, elle est la même. Donc on doit trouver des solutions. Mais pour trouver des solutions, il faut embarquer un peu de l'autre. Il faut donner envie à l'autre de m'embarquer un peu. Ça se fait dans l'écoute. Ça se fait dans ce consensus qu'on trouve et dans le grand respect les uns des autres. Je dirais que c'est ça, mais c'est à la fois la chance d'avoir aucun modèle et puis cet ADN que j'ai intuitivement, mon cœur et mon esprit de chemin. Oui, on trouve les chemins.
Alors j'ai lu que vous aviez justement essayé d'instiller cette petite touche helvétique dans le modèle français. Est-ce que c'était simple, compliqué? Est-ce que les gens comprenaient un petit peu et acceptaient cette façon de voir un petit peu différente?
Alors, à mes yeux, ce que j'ai peut-être offert de plus suisse dans mon environnement français, dans mon parcours, c'est cette profonde conviction que la formation professionnelle, l'apprentissage, c'est une voie d'excellence. C'est une voie à laquelle la France doit absolument redonner ses lettres de noblesse. En Suisse, quand j'étais enfant, il y a 60 ans, plus de 60 ans, aujourd'hui, comme aujourd'hui, 70%, 70% des enfants rentrent sur le marché du travail par l'apprentissage. Il n'y a que à peine 30% des enfants suisses qui vont à l'université. Et quand on a appris en faisant, tout au long de sa vie, on a envie de faire en apprenant. Et dans le monde si complexe d'aujourd'hui, dans le monde si changeant d'aujourd'hui, mais c'est une chance extraordinaire. Et ça, c'est vrai, pas ménager ma peine pour essayer de convaincre que ça vaut la peine, quel que soit le métier, quel que soit le jeune, quelle que soit son ambition, de lui dire « vas-y, l'apprentissage, la formation professionnelle, c'est génial ».
Justement, le Rhône Express vient de passer Vaulx-en-Velin-la-Soie. Il se trouve qu'il y a vos bureaux de WorldSkill France 2024 et vous êtes la présidente désormais. Comment ces bureaux sont devenus votre quotidien ?
WorldSkills, c'est une énergie positive, fantastique, et je suis tellement heureuse de pouvoir en parler parce qu'on en a tellement besoin de cette énergie positive. Je dirais à titre personnel, chacun, pour garder très vivante l'espérance. Et puis dans le pays, tout simplement, pour des questions économiques et de croissance. Alors, World Skills, vous l'avez dit, c'est en gros les Jeux Olympiques des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans. C'est né il y a 70 ans. En gros, l'Espagne, les Portugais disent il faut reconstruire, vite et bien, avec les meilleurs. Quoi de mieux qu'une compétition incentive pour donner envie aux jeunes de rentrer dans nos métiers. Ils réalisent que de l'autre côté des Pyrénées, il y a les Compagnons du Devoir. Et ensemble, ils lancent la compétition. 70 ans plus tard, c'est 85 pays. Et une compétition autour de 60 métiers, du tailleur de pierre à la cybersécurité. C'est une compétition qui a été voulue pour un besoin. Elle a gardé cet ADN en elle. Elle est toujours au service des besoins des entreprises et de la réalité économique. Et si je vous ai évoqué, Julien, le tailleur de pierre, c'est parce que l'épreuve aujourd'hui de tailleur de pierre, pour le même candidat, premier module digital, deuxième module mécanique, troisième module, le geste traditionnel. Voilà. Alors, en France, nous avons des sélections régionales. 20 000 jeunes se sont inscrits en 2023 sur les sélections régionales. La médaillée d'or de chaque métier, de chaque région, a droit à la finale nationale. Nous avons eu notre finale nationale il y a 2 mois à peine à Lyon, 785 jeunes, tous médaillés d'or de leur métier dans leur région. C'est juste exceptionnel. C'est une jeunesse, mais fantastique, engagée, audacieuse, déterminée, talentueuse, exigeante. Elle est très exigeante, même avec nous, les organisateurs, et c'est formidable parce qu'ils ont besoin de sens et ils nous challengent en permanence. Une force de fraternité extraordinaire qui nous scotche et qui nous oblige, nous aussi. Ils sont là pour défendre leur médaille régional au titre national. Et là, très globalement, les médaillés d'or ont droit à la finale internationale et les médaillés d'argent à la finale européenne. Et la chance extraordinaire de la France, et on le doit en grande partie à, bien sûr, à l'équipe qui m'a précédée, qui a fait un travail absolument remarquable, mais aussi au président de la République et à Muriel Pénicaud, qui ont vraiment imprimé un souffle nouveau de reconnaissance de la formation professionnelle comme une voie d'excellence. Nous avons gagné l'accueil de la compétition mondiale en septembre prochain à Lyon. Ce seront 1500 jeunes, tous médaillés d'or, dans leur pays, qui viendront défendre leur titre sur le plan mondial. Un événement absolument extraordinaire. Et vraiment, je conseille à tous les Lyonnais de venir à Eurexpo entre le 10 et le 14 septembre, d'avoir une jeunesse qui donne envie, vraiment, qui nous rend fiers d'elle, qui nous rend confiants confiant de lui confier, mais c'est pas grave, du coup vous comprenez bien ce que je veux dire, confiant de lui confier l'avenir, ça fait tellement de bien. Et puis en plus, elle est là au service de la suite, hein. C'est pas juste comme ça une compétition et puis après je reprends ma vie, pas du tout. Ils vont être engagés de façon extrêmement forte dans leurs différentes voies professionnelles. Parallèlement, nous allons mettre en place avec la ville et la métropole une fête des métiers. Place Bellecour sera mobilisée autour de ça, mais j'espère bien, on pourrait imaginer que sur tout le trajet de Rhône Express, finalement, il y ait des arrêts WorldSkills Lyon 2024. Je vous propose qu'on lance l'idée. Hein. L'idée c'est que nous soyons peu à peu vraiment une référence de découverte, d'émerveillement, d'étonnement de nos jeunes enfants sur la découverte des métiers et le plus largement possible.
La France peut rêver grand sur cette compétition, même si forcément la concurrence mondiale va être aiguisée.
Oui, on a de bons espoirs parce que l'équipe de France, dans la dernière édition internationale, a été le premier pays non asiatique, ce qui est une vraie performance. Alors évidemment, il y a le souffle de Lyon 2024 qui est là, il y a une mobilisation extraordinaire, mais on a une équipe performance qui prépare cette équipe de France. Ce sont des vrais athlètes, hein, de haut niveau. Ils vont à Clairefontaine, ils vont dans les lieux d'entraînement des sportifs de haut niveau du pays. Nous revenons de l'épreuve européenne à Gdansk, en Pologne. La France a été seconde, mais un petit point les Autrichiens. Les Suisses sont derrière nous, les Allemands sont derrière nous. Non, là, il y a de beaux espoirs. Et en plus, à un moment où moi, je me réjouis infiniment que plusieurs planètes soient alignées, le président de la République et le gouvernement qui ont une vraie volonté de faire décoller la formation professionnelle et l'apprentissage, cette compétition internationale, les entreprises qui ont besoin de compétences et qui donc sont très attentives à cette nouvelle approche, hein, de faire découvrir les métiers plus en marque employeur qu'en présence commerciale, hein, pure. Et puis aussi les sociétés qui cherchent, et en tout cas qui ont souvent des collaborateurs qui cherchent des projets un peu sociétaux. Et tout ça fait qu'il y a une formidable dynamique qui se met en place.
Et c'est aussi une formidable opportunité de porter le message que vous véhiculez depuis quelques minutes à notre micro sur l'espoir. Parfois, on parle un petit peu d'une jeunesse désabusée et vous, c'est vraiment pas la vision que vous avez.
Non, pas du tout. Je vous assure, quand on les voit, ils ont toutes les qualités que l'on espère. Pour notre jeunesse. Et ce qui me frappe aussi très très fortement, c'est deux choses. C'est de voir combien le métier c'est une puissance de fierté. Le métier bâtit des cathédrales de fierté dans le cœur des personnes qui les portent. Beaucoup plus que le travail lui-même, qui est un élément de dignité très 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 important, mais qui pâtit pas quand on pense à travail, on ne voit pas une cathédrale de fierté en soi, ou le diplôme, dans ce pays où le diplôme est si fort. Donc là, c'est la plus belle vitrine qu'on puisse imaginer sur la beauté des métiers. Et dans cette fierté métier, une chose absolument incroyable, c'est la puissance de transmission qu'ont les porteurs de métier. Il faut voir, on a entre 7 et 8 000 bénévoles qui offrent entre 4 et 6 semaines chaque année de leur temps pour accompagner nos jeunes. C'est absolument extraordinaire. Alors, on peut imaginer que ce sont des retraités qui ont du temps. Mais non, nos jeunes, à peine sont-ils sortis de la compétition, la plupart demandent à vouloir être experts à leur tour et pouvoir offrir de leur temps. Alors, il faut un petit peu de temps parce qu'il faut de la maturité, etc. Mais cette capacité de faire société ensemble, cet exemple extraordinaire de faire société ensemble, c'est aussi ça, WorldSkills France. Et je peux vous dire que ça nous motive, chacune et chacun, qu'il soit ou qu'elle soit collaborateur ou que nous soyons élus d'une façon extraordinaire. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement plein d'espérance.
Alors j'ai bien compris que c'était un grand mouvement collectif, WorldSkills France, mais il faut toujours un capitaine dans le navire. Est-ce que c'est aussi votre façon de contribuer à changer le monde à votre échelle, cet engagement renouvelé notamment pour la formation, pour la jeunesse, pour les métiers?
J'ai du mal à penser que je change le monde, parce que c'est très... C'est pas le manque d'ambition, mais ça paraît. Mais oui, on a là un tel levier bâti par nos prédécesseurs, qui ont fait, je le redis, un travail tellement remarquable qu'aujourd'hui, avec ces planètes alignées, ça serait tellement dommage de ne pas en profiter pour en faire un vrai levier qui permette... Vous voyez, on s'est donné une nouvelle raison d'être, WorldSkills France, la nouvelle gouvernance, le métier au cœur de l'envie et de la fierté de chaque jeune. Donc donner massivement aux jeunes de notre pays la certitude qu'ils ont une part d'excellence, que chacun a une part d'excellence, et qu'au fond, chacun a une part de champion en lui. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, c'est pas des mots, mais c'est une vraie réalité. Le challenge, ça fait partie de la jeunesse. Il n'y a qu'à voir comment ils se challengent, et puis ils peuvent se challenger de copain à copain, de classe à classe, de lycée à lycée, de collège à collège. Je veux dire, on n'a pas besoin uniquement de compétition d'élite. Et oui, ça c'est extraordinairement motivant et mobilisant, et je dois dire que je suis pétrie d'admiration pour mon bureau, les 14 vice-présidents, chacun engagé d'une façon extraordinaire dans une des priorités de WorldSkills France. Mais en même temps, voilà, on est au service d'une cause qui nous dépasse, qui nous porte, qui nous transcende tous, d'une certaine façon, et qui nous donne des ailes. Mais la jeunesse nous donne des ailes.
Alors, Fédération française de la plasturgie, MEDEF, maintenant WorldSkills... Vous avez endossé beaucoup de missions. Est-ce qu'il y en a une qui vous a apporté vraiment plus de bonheur que d'autres? Et est-ce qu'on peut d'ailleurs prendre du bonheur dans ces types de fonctions?
Alors je vais répondre sans hésiter à votre dernière question. Oui. Et il faut en prendre. Et c'est parce qu'on en prend, à mon avis, qu'on arrive à faire bouger des choses et qu'on donne envie. Moi, dans l'entreprise, il y avait... J'y repense, ça fait longtemps que j'y ai pas repensé, mais j'y repense, la théorie des 4 P. Le plaisir partagé précède la performance. Mais j'y crois, mais profondément. Profondément. Il faut aimer la vie pour que la vie vous aime. Il faut avoir du bonheur à faire ce qu'on fait pour donner du bonheur aux autres à le faire. Et puis... dispatcher le bonheur. C'est difficile, hein. Je reconnais que c'est un peu décalé potentiellement dans le monde d'aujourd'hui qui est très chahuté, qui est très fracturé, de porter un message aussi positif. Et pour autant, je crois que c'est aussi notre mission. Là où il y a du bien, là où il y a du positif, là où il y a de la dynamique, je vous le disais tout à l'heure, et de fraternité, d'excellence et de challenge, eh bien oui, il faut le dire. Parce que c'est comme la petite lumière qui reste allumée. Si on éteint toutes les lumières et qu'il y a zéro étoile dans le ciel, waouh, il y a un moment d'angoisse qui peut arriver. Par contre, si par-ci, par-là, il y a des petites lumières qui restent allumées, on se dit que des plus grandes peuvent se réallumer. Et c'est un peu ça aussi.
C'est aussi une façon de faire de la politique au sens large voire très large du terme. C'est une passion pour vous aussi, la politique, la vie publique?
Alors, je ne sais pas si c'est une passion, parce que si ça avait été une passion, je m'y serais lancée moi-même. Mais j'ai commencé par ça. Je ne savais pas que vous alliez me poser la question maintenant. Mais en vous disant que, jeune enfant, j'ai vu ma mère être la première femme engagée en politique dans la région de Lausanne, qui était mon lieu d'enfance. Donc oui, je pense que ça fait partie de ma vie et que c'est sans aucun doute le levier pour transformer, pour faire bouger. Alors on peut à travers l'entreprise, hein, on peut à travers du collectif d'entreprise, du collectif économique faire bouger considérablement les choses, et on le voit bien avec toutes les technologies nouvelles. Mais le politique, il touche directement la société, et plus naturellement. Et l'engagement fait partie de moi, sans aucun doute. Et l'entraînement, et entraîner, d'avoir donné envie à d'autres de venir avec.
Et rester en retrait n'a jamais été une option dans votre vie?
Alors, si, elle va le devenir. Et je l'avais pensé d'ailleurs avant d'accepter la présidence de WorldSkills. J'avais promis à mes enfants que j'aurais beaucoup plus de temps pour eux et que je me réjouissais d'avoir du temps. Pour moi aussi, pour faire plein de choses que je n'ai pas forcément... j'ai pas eu le temps de le faire quand j'étais très très engagée. Mais on a aussi la chance d'avoir la vie qui avance et puis de garder une santé. Et la pêche, la banane, hein, comme disent les jeunes, beaucoup plus longuement que la génération précédente. Moi, maman est décédée, elle avait 61 ans. Et mon père, bon, il n'avait même pas 40 ans. Donc chaque jour est une chance. Et chaque jour est un cadeau. Donc oui, il faut le transformer de façon belle, en offrant, ou alors en s'offrant. Mais le jour où je m'offrirai vraiment pour moi, pour ma famille, et ça viendra, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et il faut laisser la place à la nouvelle génération. C'est important aussi.
Nous arrivons à proximité de l'aéroport Saint-Exupéry. Vous avez beaucoup voyagé, vous nous l'avez dit en préambule. Est-ce qu'il y a encore un voyage que vous rêvez d'accomplir, Florence Poivet?
Oui. Et oui, il y a un voyage que je rêve d'accomplir, c'est l'Antarctique. C'est l'Antarctique parce que j'adorerais aller passer du temps avec ces populations animales de cette région. Faut le garder en rêve, mais sait-on jamais.
Est-ce que le voyage, c'est aussi un moyen de cultiver votre ouverture au monde nécessaire dans les fonctions que vous exercez?
Alors, cultiver ma curiosité et mon ouverture au monde, sans aucun doute. Alors, c'est vrai que là, je suis dans une fonction très internationale, avec quelque part avec WorldSkills International. Ça l'était beaucoup moins la Fédération de la Plasturgie ou le MEDEF ou même mon entreprise. Mais je dirais que c'était presque une respiration qui me nourrit profondément. Parce que je suis très marquée. J'ai eu la chance de faire des voyages extraordinaires, beaucoup de trek, et en particulier dans les hauts plateaux, que ce soit les hauts plateaux de l'Himalaya ou les hauts plateaux des Andes. Et c'est venu en résonance avec un étonnement extrêmement fort que j'ai et qui en même temps me réjouit, m'enthousiasme, de l'universalité de l'humanité. Et très concrètement, on le vit comment quand on a la chance de faire ces treks? Eh bien, on est dans l'Himalaya, on est dans les Andes, eh bien, c'est presque la même musique qu'on entend. On regarde les femmes, elles sont habillées presque pareilles. On regarde leur posture, ce sont pratiquement les mêmes. Alors, elles n'ont pas les mêmes, quelque part, les mêmes âmes, parce que les unes sont bouddhistes, les autres peuvent être très, très catholiques ou animistes, enfin, peu importe. Mais cette universalité du monde, pour moi, c'est comme une réassurance permanente, comme cette profonde espérance que, ouais, les hommes, on peut vivre, et on vit et on bâtit le monde ensemble.
Alors, Florence Poivet, il est l'heure de descendre du Rhône Express et de partir vers d'autres horizons. Notre voyage commun s'achève ici. Encore un immense merci pour ce temps passé en votre compagnie.
Merci à vous et merci de cette voie que vous nous offrez. Merci de tout cœur.
Terminus, aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Double voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.